Bonjour et merci Philippe pour cette invitation. Alors, le titre de l'intervention était un petit peu plus grand, composition et informatique musicale, qui était le sujet sur lequel nous étions mis d'accord avec Philippe, et j'ai donné un sous-titre, de l'élaboration du matériau à l'orchestration. Vous n'entendez pas ? C'est pas assez fort. Un petit peu plus fort ? Je peux me rapprocher un petit peu plus ? Voilà. Enfin, je ne peux pas, non. On avait défini cette thématique avec Philippe, de l'élaboration du matériau à l'orchestration. Il est bien évident que je ne pourrais jamais traiter un sujet aussi complexe en 30 minutes. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps sur la partie orchestration, qui est celle sur laquelle tu m'as demandé d'intervenir, Philippe. Alors, je ne rentrerai pas en détail dans cette partie qui concerne l'élaboration du matériau musical, mais pour situer tout de même ce dont il s'agit dans mon cas, et peut-être pour mettre en perspective des choses qu'on a vues dans la journée, puisque je vais faire écho, par exemple, à la présentation de Michael Malt sur les descripteurs audio, ainsi que la présentation de Nicolas Donin, où beaucoup de thématiques qui m'intéressent particulièrement ont été traitées. Donc, on va peut-être avoir un écho avec ça, et vous verrez aussi des cas concrets, finalement, de la cuisine interne, du travail de pré-composition avec les outils informatiques. Donc je vais passer quand même rapidement, sachant que je voudrais concentrer la plus grande part de l'intervention sur le travail autour de l'orchestration. Alors, pour résumer cette partie d'élaboration du matériau, je pourrais dire que l'ordinateur dans mon travail est utilisé à des multiples niveaux dans le processus de composition, de l'élaboration du matériau de base à la conception de l'orchestration, comme il est dit dans le titre, et que ce soit dans la musique instrumentale, mixte ou électronique. Donc c'est absolument valable dans tous les cas de figure. Alors j'utilise par exemple depuis de nombreuses années un logiciel qu'on appelle d'aide à la composition, c'est un petit peu plus que ça, c'est un environnement de programmation qui permet d'interagir avec des structures musicales sous forme graphique. Ce logiciel s'appelle Open Music. Et je m'en sers pour calculer, manipuler, explorer des matériaux et des situations formelles, comme par exemple le domaine de la hauteur ou de l'harmonie, en calculant des structures musicales selon certaines règles ou stratégies. Donc on voit un petit peu le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les interfaces de Thomas Goepfler qui permettaient finalement de manipuler le domaine de la synthèse ou du traitement audio. Là, on a un petit peu le même paradigme de programmation orienté avec ces objets que l'on peut interconnecter qui représentent des fonctions qui vont s'appliquer en chaîne. On va calculer des processus musicaux qui vont nous permettre de travailler un matériau généralement assez complexe. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ici, justement, je parlais de hauteur et de fréquence. On voit très clairement les hauteurs et les harmonies qui sont calculées. Mais je peux utiliser le même logiciel pour faire de la retranscription du contenu spectral d'un son dans le domaine symbolique, ce que nous a montré Nicolas tout à l'heure, en fin de matinée. Donc, cette idée de la transcription. Là, on voit un outil dans Open Music qui fait directement ça. On voit un son en entrée. Ensuite, il y a une analyse automatique des transitoires d'attaque qui vont représenter les moments où il y a des attaques les plus prégnantes. Et ensuite, il y a une analyse qui va être faite et qui va faire une moyenne des pics entre les deux marqueurs, entre les bornes. Ah oui, très bien. De l'autre côté ? Ah voilà. Ah, il faut appuyer fort, d'accord. Donc on voit bien entre ces petites barres, ça représente une détection automatique et le système va me donner en résultat une notation symbolique qui correspond à la transcription des fréquences qui ont été détectées moyennées entre les deux bornes. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus fin, mais dans ce cas précis, par exemple, je m'intéresse à des contenus harmoniques. Donc cette partie de retranscription fait bien partie de cette phase dont on parlait tout à l'heure, de la mimesis et aussi de la... Enfin, tout ce que Nicolas nous a présenté. Et Open Music, je m'en sers aussi, par exemple, pour calculer des structures aussi complexes que la forme entière d'une œuvre, avec tous ses détails internes. Ça, c'est une image d'une forme, mais ce n'est pas la mienne pour le coup, c'est un exemple d'une pièce d'orchestre de Tristan Murail, parce que je n'en avais pas une sous la main pour le coup. Et on voit que là, c'est encore le même logiciel, on est à un niveau d'abstraction où l'intérieur de ces boîtes correspond à ce qu'on vient de voir dans les images précédentes, donc à des programmes qui, là, sont mis en interaction dans une timeline, de nouveau une sorte de représentation du temps d'une pièce, par exemple. Et tous les événements peuvent être calculés à l'intérieur de cette structure. Ça veut dire que, par exemple, certains événements sont liés par des liens. Là, celui-ci, par exemple, on voit clairement les câbles qui s'attachent d'une structure à l'autre. Et si je change un paramètre initial à l'intérieur d'une de ces boîtes, il se peut que ça change le comportement de la pièce. Donc il peut y avoir de multiples manières de concevoir ces structures. Il y a aussi un travail assez conséquent depuis 20 ans dans le domaine du rythme, et notamment du polyrythme, que j'ai beaucoup étudié. Alors là, je vous montre quelques exemples. Le polyrythme, concevons-le comme des superpositions de périodes différentes. Et je m'en sers, par exemple, pour générer des structures locales ou globales. Donc, structure locale, comme ici, où on a une figure rythmique littérale qu'on va entendre comme un rythme. Il se trouve qu'en général, je m'en sers comme des microstructures à l'intérieur des compositions. Donc, je génère aussi des profils dans le domaine de la hauteur qui sont dépendants de certains paramètres issus de la polyrythmie. Donc, c'est un petit peu plus que juste du rythme. Ça génère des structures. Ça peut avoir toutes sortes de comportements avec des liens entre la hauteur, la pulsation, puisque la période peut être liée à la fréquence. On peut avoir un lien très fort entre les deux. Donc c'est un travail que j'ai mené pendant de nombreuses années. Et je m'en sers aussi parfois pour générer la totalité de la forme d'une œuvre, ou plutôt de son squelette en termes d'ancrage formel. Voici par exemple une structure qui, évidemment, c'est tout à fait illisible, mais c'est parce que j'ai mis toute la forme pour qu'on la voit. C'est un exemple où toutes les attaques qui sont ici correspondent en fait à des points d'ancrage sur lesquels des figures musicales vont ensuite pouvoir venir s'accrocher pour créer une polyphonie évolutive, puisqu'il s'agit en fait ici de polyrythme en dilatation temporelle. Donc c'est un système rythmique qui va générer une forme, et là on voit en réalité que l'os, il n'y a plus du tout de chair, hein, pour le coup, sur cet exemple. Mais ça peut descendre assez bas et structurer une œuvre d'une demi-heure, dans ce cas précis. Cette pensée autour du rythme et de la polyrythmie, c'est ensuite devenu une technique de contrôle de la synthèse sonore, avec des modèles périodiques en temps réel dans un programme en MaxMSP, dont voici une interface. C'est un programme que j'utilise dans toutes mes pièces depuis quelques années. Et le moteur ici a été entièrement réécrit en Antescofo, donc le langage dont Jean-Louis vient de nous parler, par Thomas Goepfler, qui a donc présenté tout à l'heure le programme Max. Et je le remercie encore une fois pour ce travail qui a été mené d'ailleurs en collaboration avec Jean-Louis sur certains aspects. Donc ce système, c'est encore une fois une machine qui génère des polyrythmies, sauf que dans ce cas précis, ça peut générer des polyrythmies qui me servent pour la composition, mais ça peut aussi remplir un espèce d'espace là, dans lequel l'analyse spectrale des sons qui rentrent en direct sont constamment analysés et traduits en périodes, dont est déduite les relations polyrythmiques en temps réel, ce qui fait qu'on peut générer des sortes de synthèses qui est une mise en abîme de ce qui est en train de se passer dans le domaine du son, en réalité. Donc il y a un travail de synthèse qui est complètement lié, comme une sorte de colle, de liant, qui est très très lié à l'original. Néanmoins, tous ces domaines-là, c'est le domaine de la fréquence, le domaine du temps, c'est les domaines traditionnels de la composition assistée par ordinateur. Mais j'avais toujours été frappé par le fait qu'il était fait assez peu de cas du timbre instrumental. Alors, on peut faire de la synthèse sonore dans ces environnements, on peut faire parfois des algorithmes qui nous permettent, par exemple, de simplifier l'écriture d'une pièce pour guitare, qui va chercher automatiquement les meilleurs doigtés ou dire les impossibilités. On pourrait imaginer ce genre de travail, mais sur le timbre instrumental, pour en parler, il n'y avait quasiment rien. Et ce que vous voyez là, c'est 20 ans de travail, c'est-à-dire qu'on remonte à une époque où beaucoup de choses qui nous semblent aujourd'hui très faciles à faire étaient quand même beaucoup plus difficiles que ce ne l'est aujourd'hui. Donc dans le domaine du timbre instrumental, malheureusement, ce que j'avais moi pour travailler, c'était plutôt les connaissances issues des cours de Tristan Muraille, donc sur ce qu'on a vu ce matin, la synthèse instrumentale, les aspects de psychoacoustique qui nous ont été enseignés notamment par Stéphane McAdams à l'IRCAM. Et donc, toute cette partie-là, je trouvais qu'il aurait été intéressant d'avoir un retour de connaissances issues de la musique électronique et de tous les outils que nous utilisons pour travailler le timbre électronique, qui est une sorte de retour sur le timbre instrumental dans le domaine de la composition. Et en 2001, je me suis retrouvé face à un cas concret en orchestrant une pièce qui s'appelle Metallics pour trompette et électronique, dans une version augmentée pour trompette et grand ensemble instrumental. La pièce s'appelle Metal Extension. Michael Malt en a mis un tout petit extrait ce matin. Alors, la problématique de ce travail, c'était en réalité la confrontation à l'orchestration de sons électroniques. En tout cas, des timbres très complexes. Pas nécessairement complexes, mais parfois très complexes. Et à cette époque-là, j'avais aucun outil à ma disposition, si ce n'est les outils d'analyse dont on a parlé déjà ce matin, à savoir des sonogrammes ou des analyses spectrales plus simples, disons avec des suivis de partiels, des choses comme ça. Et j'ai travaillé de manière analogique en faisant ce travail, en me laissant guider par le métier et l'intuition, le métier de l'orchestration et l'intuition du compositeur qui parfois se dit « il doit y avoir une solution dans cette zone-là ». Mais pour les cas les plus complexes, j'ai essayé de m'aider en analysant les sons orchestrés. Et là, on va retrouver une similitude, évidemment, avec ce qu'on a vu ce matin. Ça va être un exemple beaucoup plus concret, pour le coup, puisque c'est un exemple qui date de Metallics. Donc, un cas concret, ça date d'une quinzaine d'années. Voici une séquence de sons de synthèse avec des marqueurs verticaux aux endroits que je souhaite explorer. Donc, juste pour que vous l'entendiez... le volume pour accélérer un petit peu parce que je vois que le temps avance très vite. C'est pas un son très complexe, on est d'accord. Ce sont des sortes de sinusoïdes. En réalité, ce sont des filtres avec une très petite largeur de bande et du bruit blanc qui passe dedans. Mais donc là, pour le coup, les notes, je pourrais les transcrire assez facilement. Mais je mets dans ce cas simple, je vais quand même utiliser l'ordinateur pour aller récupérer les fréquences exactes. Dans les cas les plus complexes, je vais m'en servir comme d'un réservoir pour essayer d'imaginer à partir de ces fréquences comment je vais pouvoir m'approcher du timbre. Dans ce cas-là, le timbre est très simple, reste qu'il faut quand même l'orchestrer. Et l'orchestrer, ça veut souvent dire l'orchestrer avec les moyens du bord. Quels sont les instruments qu'on a à notre disposition ? Si vous me donnez 50 cordes, je vais vous faire quelque chose qui ressemblera beaucoup plus à l'original que si j'ai 14 instruments. Il va falloir tout le temps trouver des stratégies et d'adaptation. Alors, pour donner une petite idée, là, le logiciel me renvoie donc l'analyse des fréquences, des pics fréquentiels, qui me donne la séquence harmonique, et ensuite je vais avoir une retranscription de cette information sous forme solfégique, et à partir de là, je vais utiliser mon métier traditionnel pour orchestrer comme je peux. Et donc pour le coup, voici le résultat. Disons à cette époque-là, j'avais que cette méthode à ma disposition. Donc là, pour le coup, on va avoir évidemment un timbre qui va être différent, puisque je ne peux pas reproduire ce timbre-là avec mon petit ensemble. C'est un ensemble de bois par deux, avec aussi les cordes par deux, donc c'est relativement restreint. Voici le résultat. Nous entendons le début de l'orchestration, et il y aura aussi la partie soliste en plus, puisque le son cible, dans mon cas, était une sous-couche dans la composition. Donc j'avais isolé la période, le matériau dont j'avais besoin. Donc voici le résultat. Donc là, on est dans un cas relativement simple. Plus tard dans la pièce, voici un autre exemple. Ça, c'est la version originale, électronique. Maintenant la version orchestrée. Donc cette méthode fonctionne assez bien. Et pour les timbres les plus complexes, les limites de la méthode analogique classique est apparue. C'est justement dans cette zone-là où je me suis demandé s'il n'y aurait pas moyen de traiter ce problème dans le cadre de la composition de systèmes par ordinateur et de manière bien plus efficace que la méthode que j'avais utilisée. Voici un cas de figure qui me posait problème, par exemple. Donc ça, c'était ce que j'appelais le cas d'orchestration mimétique. J'avais besoin de faire une sorte de synthèse instrumentale qui me permettait de m'approcher de cette couleur. J'ai l'intuition de comment y arriver, mais encore une fois, j'ai des ressources limitées selon le cas de figure. Et dans ce cas précis, mes ressources m'ont permis juste de faire ceci. Oh, ça n'a pas marché. Alors, à partir de ce problème-là, je me disais, il doit y avoir une possibilité, j'ai un temps limité pour exécuter un certain travail, mais je sais qu'il doit exister des combinaisons que je n'ai pas le temps de passer en revue. Ça veut dire, si mon intuition ne me guide pas immédiatement sur la bonne solution, je peux passer un mois et demi sur ce problème, par exemple, et ne jamais être satisfait, avec en plus des solutions hypothétiques dans lesquelles peut-être, avant de les avoir entendues réellement, je n'aurai pas la confirmation que ça fonctionne réellement. Donc j'imaginais de manière extrêmement naïve une cible acoustique comme celle que je vous ai fait entendre, comme une enveloppe spectrale avec des informations, et ensuite la connaissance instrumentale représentée comme des calques avec des spectres, et je mélangerai mes calques et puis je me rapprocherai petit à petit comme ça d'une cible hypothétique. J'avais une version très naïve, très romantique du problème, mais j'ai quand même proposé ça en 2004, donc ça date un petit peu. Mais c'est un projet de logiciel d'orchestration qui est exactement ce que je viens de faire et que je décrivais précédemment. On pouvait commencer avec un son qui était analysé, ça rentrait dans un moteur qui avait une connaissance, et ensuite on avait une orchestration virtuelle qui nous revenait sous la forme d'une partition, d'une simulation, etc. Donc c'était un schéma qui, plus ou moins, décrivait ce dont j'avais besoin. Il y avait aussi plusieurs motivations qui n'étaient pas simplement mon problème particulier, mais qui étaient l'état de l'orchestration comme domaine de l'écriture musicale. J'ai enseigné l'orchestration pendant 5 ans, notamment au Conservatoire de Paris, et ça reste quand même une des disciplines les plus empiriques que l'on peut enseigner, parce qu'on est tout le temps sur une espèce d'analogie, de choses. On n'a qu'à lire le traité de Berlioz pour s'en rendre compte, c'est assez beau, et en même temps, on voit le manque de termes réalistes pour vraiment parler du timbre, etc. Donc ça reste quelque chose de très empirique, mal connu, et donc il se trouve qu'il y avait beaucoup de choses dans le répertoire qui étaient intéressantes. Je vais vous montrer un exemple de problème typique d'orchestration qu'on explique mal, et il y en a une quantité assez grande. Par exemple, le phénomène d'émergence, la doublure et l'émergence. Donc là, j'ai pris un exemple, mais j'en aurais un nombre extrêmement grand que je pourrais vous donner. Et quand je posais la question aux gens que je croisais à l'IRCAM à cette époque-là, on me disait toujours, on ne sait pas très bien, on ne sait pas trop. Donc il était clair qu'on avait mis le doigt sur un champ potentiel de recherche. Voici un exemple de Chabrier, le mouvement Idylle de la suite pastorale. Et on va avoir l'illusion d'entendre un corps, alors qu'en réalité c'est une clarinette, qui est précisé par une ligne en alternance entre les premiers et les seconds violons pizzicati et les altos à l'archet. En fait, il précise une ligne de clarinette qui devient une résonance dans ce cas précis. Mais il se trouve qu'on a l'émergence d'une sonorité de corps. Ça se passe bien dans le contre-champ, mais on a quand même une qualité qui vient d'émerger, et il y a beaucoup d'exemples dans le répertoire, et il y a aussi l'hybridation. On pense au début de jeu de Debussy, avec les harpes en harmonique et les cors en son d'écho, on a l'émergence d'un instrument inconnu, un nouvel instrument. Donc on a toutes sortes de comportements qu'il m'intéressait d'étudier. Et un autre cas qui est un problème d'orchestration, dans mon sens, et je pense qu'ils ne sont réalisables qu'à l'aide de l'informatique. Je vous le montre brièvement, mais l'approche harmonique. Imaginons qu'on prenne un accord complexe et que pour une raison ou une autre, on souhaite le réaliser, l'orchestrer, avec un nombre d'instruments restreints, comme par exemple quelques bois, parce que les autres instruments seraient déjà occupés dans la partition. Alors, tous ces bois sont capables de produire des sons multiples, des multiphoniques. Il y a maintenant des bases de sons complètes de ceux-ci avec les doigtés pour les reproduire, comme la base Cantimbre, par exemple, ou d'autres. Alors, pour moi, quelque chose qui serait vraiment utile, ça serait un système qui puisse me renvoyer un ensemble des échantillons de mes sons multiphoniques avec les doigtés correspondants, qui superposés reproduisent le plus possible ma cible qui était ici. Alors, ça, c'est un problème quasi insoluble à la main. C'est juste. On peut le faire en imaginant d'utiliser des multiphoniques de deux sons. On pourrait à la rigueur arriver à quelque chose. Mais si on veut vraiment faire quelque chose d'intéressant, il faut considérer les multiphoniques comme les instruments comme des générateurs de sons complexes. Voilà. Donc ça, c'est un problème d'orchestration. Et ce système que nous avons fait, ou dans lequel plutôt j'ai participé à l'élaboration, permet de s'approcher de ce genre de problème. Alors, je vais vous parler un petit peu du système maintenant. Il s'agit d'un outil, on appelle ça de l'orchestration assistée par ordinateur. C'est en réalité quelque chose qui suggère des mélanges de sons instrumentaux. Pour se rapprocher au plus près d'une cible donnée, puisqu'on a vu les cas que je viens de vous présenter, il y a toujours cette notion de cible quand même, pas dans le cas de l'émergence, mais en tout cas dans les deux autres. Et cette cible, elle est donnée comme un timbre. Dans le cadre d'une cible en audio, on aura une orchestration mimétique dans laquelle on va chercher à optimiser ce que montrait Nicolas Donat ce matin dans l'exemple de Grisé, la synthèse instrumentale. Sauf que là, on essaie réellement de se rapprocher de la cible. On ne s'en inspire pas pour créer un nouvel objet. On essaie au contraire réellement de coller à la cible. Puisque le meilleur moyen pour moi de décrire ce que je veux obtenir, c'est de donner le son de ce que je veux. C'est un composé déjà tellement complexe que c'est une espèce d'idéal. Si on peut m'amener plus près de cet idéal, ça serait exactement là où je voudrais commencer à travailler. Donc, dans le cas de l'audio, on est en mimétique. Dans le cas du symbolique, on pourrait rechercher donc des combinaisons à partir d'une cible abstraite, et on obtient là alors un outil puissant d'exploration de mélange des sons instrumentaux. On doit pouvoir vérifier les résultats sous la forme d'une maquette et obtenir une partition qui représente l'orchestration proposée. Alors, je vais accélérer un tout petit peu, parce que je vais être en retard. L'application s'appelle Orchids, et depuis le début, ce n'est pour moi qu'un outil de stimulation de l'imaginaire. C'est en aucun cas l'idée de faire quelque chose qui orchestre automatiquement. C'est juste l'idée de partir plus proche de ce qu'on essaie d'obtenir, et à partir de là, le métier prend le relais et vient évidemment corriger les erreurs, ou même les transformer ou les changer. Mais certains cas sont absolument intéressants. Alors, j'ai pas fait ça tout seul. À partir de ce moment-là, on était déjà un groupe de travail, notamment avec Jonathan Harvey et Tristan Muraille et d'autres, puisqu'évidemment, il fallait voir s'il y avait convergence sur le besoin d'un nouvel outil, puisqu'il s'agissait là de développer un nouvel outil à l'IRCAM avec des ressources finalement assez limitées. On ne peut pas lancer toutes sortes de projets comme ça, donc il fallait voir s'il y avait une convergence d'intérêts, ce qui a été le cas. Alors, je vais encore accélérer un petit peu plus, excusez-moi. Quelques informations importantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la connaissance de notre système dépend d'une vaste base d'échantillons sonores que l'utilisateur peut compléter avec ses propres sons. C'est les mêmes échantillons qu'on utilise pour le rendu final. Le moteur d'orchestration, lui, ne travaille pas sur les sons, mais sur les descripteurs sonores de ces sons, ce qui nous ramène à ce matin. Et en fait, ça consiste à calculer directement sur le signal audio une information liée aux propriétés perceptives du son. Alors, c'est une manière déjà de s'affranchir de la lourdeur de devoir calculer sur des sons, mais ça permet aussi de parvenir à une connaissance synthétique et formalisée des possibilités de timbre offertes par les instruments. Notre programme compare et combine donc des descripteurs sonores. Alors, il ne suffit pas d'extraire les propriétés d'un son pour pouvoir travailler, faut-il encore pouvoir calculer ces propriétés pour des combinaisons de sons. Et là, on tombe sur un problème assez complexe qui est l'addition, les fonctions d'addition, la construction des fonctions d'addition des descripteurs, et on bute encore sur ce problème de manière assez sensible. Puisque nous ne comparons pas directement des sons, mais leurs descriptions, on a utilisé les descripteurs pour lesquels les fonctions d'addition étaient accessibles dans le cadre d'un prototype. Et il s'agit de la petite liste qui est en bas à droite. Donc elle n'est pas très grande, mais comme je l'ai entendu ce matin, je ne sais plus dans quelle présentation, on a des descripteurs qui sont beaucoup plus robustes que d'autres à nous apporter une idée réelle du timbre qu'on est en train de décrire. On s'y reconnaît, par exemple, dans le fait que la brillance est en effet correcte, ainsi que d'autres paramètres. Donc, avec assez peu de descripteurs, on arrive à de bons résultats. Je voudrais vous montrer, avec le premier prototype qu'on a fait, les premiers résultats qu'on a obtenus. Voici, par exemple, le jeu, c'était, on demandait au logiciel, on lui donnait une cible et on lui demandait de la reproduire avec deux autres instruments. Et on a fait ça pour tous les instruments, sur toutes les notes, sur toutes les dynamiques. Évidemment, on n'a pas écouté tous les sons, il y a eu un travail statistique dessus, et on piochait des sons au hasard, et voici ce que ça renvoyait. Par exemple, voici un cor refait avec un trombone et un alto. On entend l'original et ensuite le résultat renvoyé par la machine. Ou ce violoncelle sous le ponticello, reproduit par une contrebasse en harmonique et une trompette avec sourdine. Alors, notre système ne connaît pas le temps. Donc pour lui, à un moment donné, quelque part, il se passe quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on lui demande. Ce système-là, c'était un système qui travaillait en force brute. Donc, toutes les combinaisons étaient testées. Donc, dans ce cas précis, on donnait, je crois, nos instruments avaient le droit de jouer une dizaine de notes, pas plus, parce que sinon la combinatoire devenait beaucoup trop grande. Évidemment, on bute sur un problème combinatoire si on extrapole ça à un orchestre. Par exemple, pour 14 instruments qui peuvent jouer seulement 12 notes chacun, on a 1 million de milliards de combinaisons. 10 jours de temps de calcul. Il se trouve donc qu'on est tombé sur un problème assez difficile. Et la solution a été d'utiliser un algorithme génétique multicritère pour explorer un espace de solutions. Alors, ça veut dire qu'en maintenant, il n'existe plus de meilleure solution, comme c'était le cas dans les exemples que je viens de vous montrer. Mais maintenant, il faudra explorer un espace de solutions pour y choisir la solution qui nous intéresse le plus, selon un ou plusieurs critères, à savoir un ou plusieurs descripteurs dans ce cas précis. Alors, le système commence par la génération aléatoire d'une centaine de combinaisons d'instruments de l'orchestre à partir des descripteurs choisis et nous les renvoie. À partir de là, les résultats sont, pour deux descripteurs, par exemple, sont mis dans un espace et on peut voir les meilleures solutions selon leur proximité par rapport à la cible qui est en bas à gauche avec le T de target. Ces meilleures solutions s'alignent sur le front de Pareto qui est en rouge ici. Donc les solutions à gauche seront meilleures sur le critère de gauche, celles à droite sur le critère de l'axe DX. Donc pour le coup, ça pourrait être deux descripteurs ici comme la bruyance et l'épaisseur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sélectionner une solution comme le cas de celle-ci et relancer une génération et ainsi de suite par itération successive. On se rapproche de plus en plus de la cible. Alors, le premier résultat qui a été renvoyé par ce système était assez sympa. Alors, je l'ai gardé. Voici la première cible qu'on lui a donnée. Alors, notre système ne connaît pas le temps, mais il nous a renvoyé ça. Donc, on était plutôt sur une bonne piste. Et vous voyez que la finesse du logiciel nous renvoie le mode de jeu, l'instrument, la note et aussi la corde sur laquelle il faut jouer. Ça dépend de notre base de données. Plus notre base de données est complexe et représentative, plus on va avoir un résultat intéressant. Un autre exemple qu'on a eu. Tu veux le réentendre, Philippe? Il faut que je remonte toute la. Excusez-moi. Donc ça a été fait. Alors, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que maintenant, quelle que soit la taille de l'orchestre ou la complexité de la cible, le calcul est le même. Donc, je travaille avec 10 instruments ou 150, il n'y a plus aucun problème de temps de calcul. Par contre, on a un autre problème, je reviendrai à la fin. On a évidemment, après ce premier résultat, fait des expériences assez lourdes, puisque tous les compositeurs, en tout cas présents dans ce groupe de recherche, ont commencé à travailler avec le logiciel. Voici un exemple donné par Tristan Muraille. C'est une trompe tibétaine. Et voici ce que le logiciel renvoie. Donc j'ai pris une des solutions au hasard dans la liste. Alors, il y a évidemment des différences. qui sont dues aux différences de justesse des amplitudes, évidemment, entre des échantillons statiques, etc. Il y a plein d'erreurs que le compositeur peut aller corriger. Par contre, il a capturé quelque chose, l'identité du premier timbre, qui est absolument pas anodin et qui serait extrêmement difficile d'estimer de manière intuitive dans un temps aussi court que ce qu'il peut faire. Ce qui veut dire que ce point de départ-là, quand on donne ça à un orchestrateur aguerri, là, on va faire monter les enchères maintenant. C'est-à-dire la qualité va encore incrémenter. Dès qu'on passe d'ailleurs à l'orchestre réel, ça, tout d'un coup, ça prend en plus une dimension extraordinairement réaliste. On est resté à peu près 10 ans dans cette étape-là, améliorer ce qu'on pouvait. Et ensuite est arrivée la phase d'extension au domaine temporel de notre système, qui a été faite grâce aux travaux de Philippe Hessling, qui a travaillé sur la correspondance entre des séries temporelles multi-objectifs. Et il a permis de rajouter cette dimension au programme il y a quelques années. Alors voici le premier exemple qu'il a réalisé en reproduisant cette cible avec un orchestre qui comprenait seulement des flûtes, un basson, un violon et une trompette, donc avec 6 instruments. Voici la cible qu'il a donnée. Et il a eu ça. Alors je ne sais pas ce qui serait passé si on avait mis un orchestre beaucoup plus grand, mais on aurait peut-être pu se rapprocher encore plus de cette cible-là. Ce que cette version du logiciel fait, c'est que maintenant on peut lui donner des choses plus complexes dans le temps, et évidemment il va essayer de le résoudre dans le temps, ce qui est un petit peu différent des solutions statiques qui ont ma préférence, parce que je préfère interpoler à la main des solutions statiques plutôt que... Mais bon, il y avait un débat sur ce genre de questions et on n'a pas tranché encore. Le logiciel actuel est disponible à travers le forum IRCAM, dont vous voyez maintenant les principales fenêtres. Donc il a un petit peu évolué par rapport aux toutes premières versions que je ne vous ai pas montrées d'ailleurs. Mais ici, on voit la définition de la cible. On peut donc poser un fichier audio là-dedans. On va avoir une analyse qui va être faite, une représentation symbolique. On applique des filtres symboliques. Alors, en fait, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est qu'on aide le logiciel à aller là où on veut qu'il aille. Si, par exemple, je voudrais optimiser une certaine qualité du timbre, je vais essayer d'éliminer les choses qui n'ont rien à voir. Si je cherche quelque chose de très lisse, je vais enlever tous les sons très courts, par exemple. Je vais déjà l'éliminer de la complexité. C'est-à-dire que dans la génération des premières solutions aléatoires, je vais éliminer tout ce qui n'a pas de sens. Je vais essayer de l'aider. À partir de là, on fait une définition de l'orchestre dans laquelle on décrit ce qu'on a à disposition. On a aussi la résolution fréquentielle, quart de ton, huitième de ton. Et ensuite, on a l'explorateur des solutions, dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Donc là, selon un ou plusieurs critères qui peuvent être pris dans ces menus, on peut rechercher dans un critère ou dans un autre. Et donc, à partir de là, les solutions vont arriver ici. Il y a une autre page qu'on ne voit pas, qui est la maquette, dans laquelle on peut coller plusieurs solutions qui proviennent de plusieurs sessions et faire une pré-composition, ou en tout cas une sorte de schéma assez rudimentaire de quelque chose qui dépasse largement l'orchestration à ce stade. On est déjà dans la composition avec des timbres, qui est le véritable objectif de l'orchestration, selon nous, maintenant. Quelques problèmes, il y en a. Et c'est peut-être des choses à faire ou des choses à arranger. Les deux premiers problèmes ont d'ailleurs à voir avec la méthode choisie pour réduire la complexité combinatoire. Le premier problème, c'est la reproductibilité. Le fait de cette génération aléatoire, si on ne prend pas soin de bien définir des filtres, on va obtenir des résultats d'une session à l'autre qui peuvent être assez différents. On n'est pas garanti de tomber toujours à un endroit qui soit celui qu'on cherche, et ça peut décourager un petit peu. Donc ça, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on peut faire pour ce problème, mais il faudra le poser. On a un autre problème, on est tous en train de se plaindre qu'il faut simplifier l'exploration des solutions. Puisqu'on n'a plus de meilleurs résultats possibles, il faut explorer des espaces de solutions possibles selon des descripteurs. On doit être assez sûr de ce qu'on recherche. Mais ça prend pas mal de temps d'aller voir. Si vous demandez 15 descripteurs, plus vous avez de descripteurs, plus votre nombre de solutions à aller écouter est grand. Et puis écouter, ça veut dire cliquer dessus. Bon, ça peut prendre pas mal de temps. Et puis au bout d'un moment, à la 50e, on ne sait plus très bien la différence entre la 3e et la 20e. On se perd un petit peu. Et donc, on aimerait, en tout cas, on parle souvent de l'intérêt qui serait d'avoir quelque chose qui fasse un petit peu la synthèse de tout ce qui a été récupéré et qu'il fasse de nouveau une sorte de calcul de similarité générale en disant ben, ça ressemble quand même un petit peu plus à la cible que celui-là. C'est-à-dire de refaire encore une étape, c'est quelque chose qui est assez problématique en tout cas. On a un gros besoin, j'appelle ça ajout des sons complexes, multiples, bruités, etc. Bon, on a besoin d'un système et de descripteurs et des modèles d'addition de descripteurs qui soient capables de traiter des sons un peu plus complexes que ceux que je viens de vous faire entendre, à savoir des sons harmoniques, souvent monodiques. Donc, quid des sons bruités, des sons complexes, qui sont finalement le matériau des compositeurs d'aujourd'hui. Je pense pas simplement aux compositeurs issus de la saturation ou d'autres, mais enfin, tous les sons bruités font partie maintenant de la palette des compositeurs. On a entendu dans les exemples de Nicolas les travaux de Ben Hackbart, je pense, Aaron Abond, qui travaille sur le bruit. Mais là, notre problème, c'est pas d'aller faire un matching entre deux choses, c'est d'aller additionner des descripteurs de bruit ensemble pour obtenir quelque chose qui fait sens. Donc on a un souci à ce niveau-là. Et pour le coup, on est dépendant de travail en analyse synthèse et en traitement du signal sur ces domaines-là. On ne peut pas vraiment avancer. Une dernière chose qui m'intéresse particulièrement, je souhaiterais le passage du logiciel actuel, qui ne traite encore que d'instrumentation, un logiciel permettant d'aborder réellement les problématiques de l'orchestration. L'orchestration, ça serait réellement l'assignation de paramètres à des instruments pour obtenir quelque chose. Le cas statique était vraiment flagrant pour ça. L'orchestration serait quelque chose d'un peu plus complexe. Nous savons tous qu'un plan sonore est équilibré quand les volumes et les intensités des instruments qui le constituent sont équivalents. Je parle du volume comme de l'épaisseur du son, tel que l'a défini Koechlin dans son traité d'orchestration. Donc le volume, c'est quelque chose qui donne la sensation de remplir l'espace. La flûte dans le grave a un gros volume, dans l'aigu, elle ne l'a pas. Et l'intensité. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a une solution d'orchestration, on puisse agir sur le rapport de profondeur entre deux plans sonores issus de deux solutions d'instrumentation, selon des critères de descripteurs qui pourraient repousser, par exemple, une solution derrière une autre. Si je veux, par exemple, avoir une orchestration qui passe derrière l'autre, je devrais pouvoir, avec un seul potentiomètre, faire reculer quelque chose qui agirait sur plusieurs descripteurs et qui irait évidemment changer les solutions à la volée, en travaillant par exemple sur la transparence, l'épaisseur ou la brillance des solutions reçues. Il y a un énorme travail à faire là-dessus et on n'a pas du tout commencé. Ça, c'est vraiment encore un chantier en friche. Voilà. J'ai dépassé un petit peu, pardon Philippe. Merci.